Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Pour ce premier épisode de 2018, je vous propose de tenter un truc. J'ai passé une heure de notre journée de Noël en famille, en tête-à-tête avec mon père. Oui, mon daron. Ensemble, on est revenu sur 40 années. Bah, c'est que je me fais plus tout jeune, moi. 40 années de paternité, donc, et même plus, puisqu'on évoque, tout comme avec Manu dans l'épisode 7, les 4 années qu'ils ont passées avec ma mère à tenter de m'avoir. On discute aussi de son rôle, justement à ma mère, de notre éducation, de sa place à lui, en tant que père, pas mal occupé au boulot. Et puis, la cerise sur le gâteau, plus récemment, de son rôle de grand-père, maintenant qu'il a 5 petits-enfants. Enfin, on discute ensemble de mon grand-père, qui est mort quelques mois avant ma naissance, et de cette sensibilité qui est arrivée tardivement chez lui. Ou du moins que peut-être il s'autorise plus facilement à montrer l'âge avançant. J'espère que cet épisode un peu spécial vous parlera, et je vous donne rendez-vous à la fin de cet entretien. Alors on va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on est avec mon daron, hein, un daron un peu spécial, c'est mon père, voilà.
Tout à fait.
Mon père qui s'appelle Bernard, t'as 70 ans.
Tout à fait. Tout récemment.
Tout récemment. On a 30 ans d'écart, tous les deux. Et alors, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans les commentaires d'Histoire de Daron qu'ils auraient bien aimé avoir cette discussion-là avec leur père. Et je me suis dit, ça serait marrant qu'on fasse ça tous les deux. Alors, c'est Noël, en fait, c'est le jour de Noël. Donc, il y a peut-être les enfants qui sont en train de jouer à côté, peut-être que vous les entendrez. Enfin, bon, voilà. Et on prend une petite heure, en fait, pour discuter de ton propre parcours, en fait, de la paternité. Et alors, t'es hyper stressé.
Bah quand même.
Pourquoi t'es stressé?
Bah écoute, je viens de regarder ton dernier interview là, et je me suis rendu compte qu'avec 40 années d'écart, t'as interviewé quelqu'un qui a pu avoir les mêmes problèmes que j'ai eu dans ma jeunesse avant de t'avoir, et je me suis dit c'est pas possible, ça a quand même 40 ans se sont passés et c'est extraordinaire quoi, parce que ce qu'il a vécu ce monsieur,
Manu donc, ouais.
Ouais ouais. Mmh. Bah, j'ai vécu exactement les mêmes choses et puis c'était stressant quoi. Mm-hmm. Et ce qu'il a ressenti quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me ramène 40 ans en arrière avant ta naissance.
Mm-hmm. Hein. Et alors t'as préparé des notes.
Mais non, parce que
t'es hyper scolaire.
Mais non, mais je me suis dit, il était tellement ouais. Doué ce monsieur qui est passé avant moi. Je dis, mais il va poser quoi comme question, mon propre fils? Je dis, il faut que je note, parce que ça fait des années, ça se passe, et puis les souvenirs, faut qu'on les note, parce que même j'en ai parlé à ta mère, je dis, tu te souviens de ça, on se souvient de ceci, cela.
Vous êtes toujours mariés, en fait, avec,
toujours ensemble,
avec ma mère.
Bah, bientôt 47 ans de mariage, oui, tout à fait, ouais.
Vous êtes rencontrés quand vous étiez très jeune.
Très jeune, c'est-à-dire que je suis rentré dans ma société, je devais avoir près de 17-18 ans, en octobre 65, et ta mère est rentrée quelques mois après comme sténodactylo, et son père travaillait comme directeur commercial chez la boîte où je travaillais.
Ouais. Et c'était une usine textile à
tout
Roubaix,
à fait, à Roubaix, oui, oui. Et j'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise. Et avec pas mal de...
Il y a plein de changements entre
temps. De changements, de fusions, de rachats de sociétés. Puis j'ai fait une petite carrière, puis j'ai monté de petit employé comptabilité jusqu'au chef comptable, jusqu'à la fin de la boîte, quoi. Et puis c'est là que j'ai rencontré ta maman.
Mais vous aviez quel âge alors?
Ah ben moi j'avais... Bon, je l'ai connue... un peu avant que je m'en aille à l'armée. Bon, moi, je ne me suis pas déclaré. Il fallait que je m'en aille à l'armée, donc j'ai passé mon service militaire. Et quand je suis revenu, eh ben, il y a eu un petit truc qui a fait que... Ben voilà, ça n'a pas été facile, puisque vis-à-vis de mes beaux-parents, c'était quand même pas évident, parce que... Comment expliquer... Je... Couper...
Non, pas coupé, on ne veut pas couper ça du tout.
Non, mais
votre histoire n'a pas été facile. Alors,
c'est pas
drôle par rapport aux autres interviews que je fais, parce que je connais déjà quelques trucs. Bah, j'espère apprendre des trucs, en fait.
Mais
tes beaux-parents, en fait, s'opposaient plus ou moins à votre relation avec maman à l'époque. Quoi.
Au départ, tout à fait, oui. Puis, alors que de mon côté, il n'y avait aucun souci. J'avais aucun problème avec mes parents. J'ai fini l'armée.
Tu sais à cause de quoi c'est ?
J'ai jamais su. Je suppose que s'ils avaient demandé au curé de la paroisse s'ils connaissaient ma belle famille, ils auraient dû se dire non, on ne connaît pas, ça a peut-être joué, peut-être, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, bon, on a tenu tête et puis on s'est mariés. Hein, et ça n'a pas été évident.
Tu venais d'une famille, toi, qui n'était pas vraiment axée religion, on va dire. Hein.
Pas trop, non, mais pas contre quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, famille ouverte, mais. Je ne saurais pas trop expliquer ce qui s'est passé.
Ton père
et je n'ai jamais su.
Ton père était ouvrier ?
Ouvrier, ouais. Oui, tout à fait. Et puis, à l'époque, moi, j'étais gamin. Et puis, je voyais mon père qui partait travailler avec... il partait travailler avec sa mobilette. Il faisait équipe de nuit. Des fois, on venait le chercher le dimanche, pas quand il y avait des problèmes de... Et puis, tout ça, ça fait que... toi, quand tu vis ça toute ta jeunesse, après... tu sais ce que c'est de travailler et puis ça te donne envie de toujours être de vouloir aller de l'avant et de bosser quoi. Je veux dire que j'ai été élevé comme ça quoi. Et puis quand j'ai rencontré ta mère, alors là il fallait un beau jour que.
Donc vous êtes marié à quel âge en fait?
Moi j'avais 23 et puis ta mère elle avait 21. La première chose qu'on voulait c'est de dire on va profiter un peu de la jeunesse qu'on n'a pas eue à deux, quoi. Les premières années, c'était on sort, on va aller en boîte, on voit des amis. Jusqu'au jour où on s'est dit, bon, maintenant, faudrait peut-être quand même qu'on pense à... C'était un projet commun d'avoir des enfants.
Ouais. Hein ? Et t'avais toujours voulu des enfants, toi ?
Ah oui, tout à fait. À l'époque, c'était ça. D'abord, on fait partie des couples qui se sont mariés à cette époque-là à avoir des enfants assez tard quand même, parce que moi, je t'ai eu, j'avais 30 ans, ta mère 28. Dans nos amis, c'était c'était très tard déjà, parce que tout le monde avait des enfants au bout d'un an de mariage.
Vous êtes resté combien de temps alors avant de mettre en route le projet ?
On s'est marié en 71 et t'es né en 77, hein. Donc, c'était très long. Pour nous, ça commençait à devenir pénible. Et donc, on était suivis par un gynécologue à l'époque, très calme, qui disait « Mais il ne faut pas vous faire de soucis, il n'y a pas de problème, ça ne risque pas. Non, on ne peut pas parler de fertilité au bout de 4 ans, mais bon, ça va venir. » Mais bon. Et les années passent. Et puis, dans la famille, il y a des naissances. Si je prends le cas du frère de Christine qui s'est marié 6 mois avant nous, il nous a annoncé la troisième naissance, que nous, toujours rien. Et puis, après, c'est arrivé dans ma famille, moi aussi, des naissances. Et puis nous, pas de problème, toujours pas de naissance, toujours rien qui venait. On est arrivé à un moment donné d'envisager l'adoption.
Ah oui, c'est vrai.
On s'est dit, c'est pas possible. Alors, bien que le gynécologue nous dise, mais non, vous savez, ça risque pas, mais ça ne fait que 4 ans. On passait par des examens. Ta mère, des examens pour un suivi d'ovulation. Moi, c'était pareil. Donc, prélèvement pour voir au niveau spermatozoïde s'il n'y avait pas de soucis. Et puis ça dure, et puis tu te dis, mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais au bout.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de PMA.
Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y avait pas de PMA, il n'y avait pas non plus d'échographie, il n'y avait rien de quoi que ce soit. Donc on ne savait pas où on allait. Sinon, notre gynécologue, que je trouve encore admirable, qui nous disait, mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir, et une fois que vous aurez le premier, ça va... Ouais. Oui. Tu dis, ouais, raconte, et puis après, derrière, faut déjà avoir le premier, quoi. Ouais. Et puis après, donc, on a eu des petits problèmes de soucis chez mes parents. Ma mère a eu un petit accident et mon père était assez malade quand même. Donc on est parti habiter chez eux le week-end. Et j'ai mon plus jeune frère qui allait là la semaine et nous on se remplaçait. Donc des choses qui font en sorte que ben, on finissait par penser à autre chose que la naissance du premier. Bon, il y a eu l'achat de la maison à Neuville. Mmh. Et puis là, donc, ta mère qui était suivie par un tas de problèmes, qui ont dit, bon, c'est tout, on n'arrivera pas, on va tout laisser tomber. Et puis, ben, on a déménagé. Puis voilà, quelques mois après, grossesse.
Mais ça se passait comment dans votre couple? Ça se passait bien alors? C'était pas trop dur entre vous de... Parce que Manu racontait justement que c'était dur entre...
Si, complètement. Quand j'écoutais ce qu'il me racontait, là, moi c'était des périodes d'ovulation très courtes. Donc le gynécologue nous disait, faut pas rater l'ovulation. Donc c'était... Comme je t'ai une fois raconté en rigolant, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais il arrive un moment où, puis comme il disait, t'as plus cette envie, c'est plus la même chose, quoi. Je veux dire, quelques mois après, ta maman s'est trouvée enceinte. Alors pour nous, c'était un truc extraordinaire. Quelle vie, tout d'un coup, tout change, quoi. On prévoit l'avenir et tout, et les mois se préparent de manière admirable. Et puis là, j'ai mes parents qui me disent « Tiens, on aimerait bien partir en vacances chez des amis qu'on a là-bas, près de Perpignan. Ça vous dirait de nous emmener là-bas ?» Alors nous, on avait dit « Oui, bon, on fera la route en 2 jours parce qu'on ne sait jamais, Christine est enceinte et tout. »
C'était quand? C'était l'été, ça?
C'était en juillet, juillet 77. Donc ta maman t'attendait. Puisque tu es venu au monde le 2 novembre. Et puis on est parti en vacances, et puis là-bas, super bien, on a fait la route en 2 jours, et puis là, c'est mon père qui est décédé pendant qu'on était en vacances. Alors là, catastrophe, on avait dit on fait la route en 2 jours pour que ta maman ne soit pas fatiguée, mais il a fallu qu'on revienne de toute urgence, et puis là, heureusement que ta maman était là, parce que je n'étais pas capable de conduire. Je n'étais pas capable de conduire toute la route de temps en temps. Donc, et puis voilà.
Donc tu étais jeune en fait quand ton père est mort?
Ah ben mon père est mort.
Pas 30 ans, c'est ça?
Oui, j'avais pas 30 ans. Ouais. Et lui, il avait 51 ans. Donc. Et puis donc, c'était une bonne chose parce que toi, tu étais là. Donc ça m'a permis de vivre d'autres choses, quoi. Et puis après, après ce décès, il y a eu la naissance.
C'est toujours dur pour toi de parler de la mort de ton père.
Ah oui, complètement. Ouais.
On peut faire une pause, si tu veux.
Non, mais...
Non, mais 40 ans plus tard, c'est encore dur.
Exactement. Donc après, les mois se sont passés, les mois après, on a eu une chance extraordinaire, c'est que ta mère a pris un congé parental. Comme c'était la Toussaint, j'ai ma marraine qui est revenue de la région parisienne, elle nous avait fait une choucroute comme elle avait l'habitude de faire au champagne et tout. On a bien passé une bonne journée, tellement il faisait beau, on était en t-shirt. Le soir, ta mère a dit... Ah, je suis pas bien, je sais pas si c'est la choucroute qui passe mal. Non, c'était pas la choucroute, c'était toi. On avait quand même des inquiétudes, c'était notre premier. Et à minuit, on arrive, et puis la petite sage-femme qui arrive avec son badge, elle s'appelle Madame Jumeau. Donc déjà, ça, comme il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait rien du tout, tu dis, non, c'est pas vrai. Pourquoi pas, après tout... On a tellement attendu. Et donc, toi, t'es arrivé à 11h30 le lendemain matin.
Quoi. Ça te fait quoi, toi, d'avoir ton premier gamin?
C'était
déjà l'accouchement. Comment ça se passe? À l'époque, tu disais que... Tu m'avais raconté que t'avais pu être dans la salle,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait.
Tu étais un des premiers parents à l'époque, c'est ça? À avoir le droit de... C'est pas ce que tu m'avais raconté? Ça se faisait pas trop, en fait, à l'époque.
Non, pas trop, parce que les papas... à l'époque, bah, ils n'insistaient pas. Et là, on pouvait insister, oui, tout à fait, en 77, oui, oui, oui. Et puis, j'ai tenu à insister. Alors, ça faisait rire ta mère, parce qu'il y avait donc un siège qui était à 2 mètres d'elle. Et puis, je faisais les allers-retours. Elle dit, mais rapporte ton siège. Je dis, non, non, je ne veux pas les embêter, je ne veux pas là. Et puis là, c'est là qu'à l'époque, il y avait des monitoring. Et puis, tu vois... Quand tu vois les chiffres qui commencent à monter, tu dis, ça y est, c'est une contraction qui arrive. Donc, je me rapprochais en donnant la main. Ça a duré jusqu'à 11h30 le lendemain où tu es arrivé. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Tu vois, un enfant, ils te le prennent, ils commencent à crier. Puis, c'était toi, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Je sais pas.
T'as connu la même chose. Ouais. Et les choses que j'ai reconnues, quand j'ai relu après, 40 ans après, tes livres de futur maman, quoi. Ouais. Futur papa, plutôt. Ouais. Non, non, pas futur maman. Donc ça faisait 4 ans que...
Ça faisait 4 ans que vous essayiez.
Voilà, tout à fait. Donc ta mère a eu un congé, on avait pris un congé parental de 2 ans. Et pendant cette période de congé parental de 2 ans, ta maman m'a attendu ton frère. Mm-hmm. Alors là, j'ai une anecdote qui me restera toujours gravée, parce que comme j'étais dans l'entreprise chargé du personnel et tout ça, en comptabilité et tout, j'avais dit, je vais me renseigner quand même, savoir pendant ce congé parental, comment on fait quand il arrive un deuxième, alors que je doutais bien de ce qui allait arriver. Et je téléphone au type du, je ne vais pas dire l'organisme qui s'occupait des boîtes textiles. Et quand je lui raconte, je dis, vous savez, j'ai une personne chez moi là qui est en congé parental et qui attend son deuxième. Et il me répond, ah ben ceux-là, ils ne perdent pas de temps. Alors, je ne réponds pas. Je dis, oui, mais bon, d'après vous, alors il me dit, ben non... Pour moi, il n'y a pas de souci, mais il dit faudra que. Bah, on ne peut pas prolonger le congé parental. Bah, je lui dis écoutez, ça m'intéresse à double titre, parce que la personne qui m'a posé la question, c'est mon épouse. Et puis là, je le trouve tout confus, qui me dit bah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi je vous ai dit ça. Il dit tout compte fait, quand je repense à la différence qu'il y a entre mon frère et moi, ben, j'ai dit des conneries, j'aurais pas dû dire ça. J'ai dit, mais non, c'est bon. La naissance de ton frère, hein, donc alors, autre chose, lui, un départ à 6h du matin, arrivé, donc on te dépose chez les beaux-parents, en se disant, ben écoute, on sait pas combien de temps ça va durer, et puis ben, lui, comme aujourd'hui, toujours aussi rapide, à 9h, il était là, quoi. Donc, je suis retourné chez les beaux-parents et qui m'ont dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, ben, Frédéric, il est né, quoi. Ah bon? Elle dit, bon, on ne pensait pas que ça allait durer si vite, ça allait aller si vite, mais si, il n'y a pas de souci.
Et donc, tu ne savais toujours pas à l'époque si c'était un garçon aussi, c'est ça? Il n'y avait toujours pas
d'écho? Ah non, toujours pas. Toujours pas. Donc, toi, c'était la surprise. Donc, ben, ton frère, on n'allait pas faire le difficile. Hein, en ayant attendu soit un garçon ou une fille, on était super contents. Donc là, c'était un garçon. Pas de souci, on était super heureux.
Vous avez réenchaîné tout de suite, c'est ça?
Ah parce que... après, il y a eu le désir d'une fille.
Là, ah, carrément?
Ah oui, carrément, ah, ça, ouais. C'était ta mère. Là. Une fois qu'il y avait eu le garçon, on attendait un petit peu. Bon, c'est qu'entre toi et ton frère, il y avait 19 mois d'écart seulement. Hein. Donc elle disait, ah oui, mais moi j'aimerais bien une fille. Ah bon je dis, on a le temps. Non, si ça met autant de temps qu'au premier. Donc, résultat, on a engagé sur la fille.
Mais comment elle a fait pour décider d'avoir une fille?
Parce qu'elle avait envie. Hein.
Ah, okay. Non, mais ça aurait pu être un garçon.
Oui, non, mais peut-être, ça aurait été un garçon, c'était pas grave.
Okay, d'accord.
Mais elle s'est dit, bah, après tout... si c'est maintenant on a deux garçons, pourquoi pas une fille?
Ah,
et puis, ça aurait été un garçon, ça aurait été pareil, hein, okay. Il n'y avait aucun souci. Là, c'était plus long quand même, parce qu'ils avaient prévu une date d'accouchement pour fin octobre, alors qu'elle est venue le 16 novembre. Donc là, ils avaient dit, bon, on fera des déclenchements, puis on avait des rendez-vous réguliers, puis c'était des reports à chaque fois, ça a été très long. Si bien qu'à un moment donné, ta mère a commencé à déprimer, quoi. Et puis là, ils ont dit, bon, on va déclencher l'accouchement. Ils l'ont déclenché à 9h le matin. Puis nous, on s'est dit, bah, une fois qu'il déclenche, ça va aller très, très, très vite. Et puis non, elle est arrivée à 17h30. Et puis voilà, donc ça fait que nous avons eu les trois enfants.
Trois enfants en 4 ans.
En 4 ans et 14 jours. Ah oui, parce que du 2 au 16 novembre. C'est pour ça que je pensais au prédécesseur que tu avais interviewé. Là, j'ai dit, mais c'est vrai que c'est galère quand tu penses à tout. Et puis du jour au lendemain, on oublie tout.
Comment ça se passait être un jeune papa à la fin des années 70, au début des années 80? Est-ce que tu as changé les couches, etc.
Oui, ou alors, oui.
Est-ce que c'était déjà dans les mœurs? Parce qu'aujourd'hui, je dirais, on a quasiment, en tant que mec, on a quasiment plus le choix, c'est-à-dire que c'est limite un passage obligé. Mais tu as la sensation, toi, déjà à l'époque, que c'était le cas?
Moi, j'ai changé ta première couche. Je me souviens, j'étais trop fier et je t'élevais.
Surtout que les couches, elles étaient galères.
Ouais. Non, mais c'était des couches...
C'était pas les pampers.
Non. Et je t'élevais en disant j'ai réussi, puis la couche, elle est tombée. Et puis là, j'ai dit, putain, je suis nul, quoi. Et c'était la vérité. Mais...
T'avais envie de faire ça?
Oui. Bah, t'as envie de participer. Surtout que pendant des années, tu demandais que ça. Mm. Alors, t'as envie de participer, t'as envie d'être partout. Et puis, le problème, c'est qu'à notre époque où tu es né, y arrivait déjà, je dirais, l'âge où on avait, on était en retard sur les jeunes de notre époque. À l'époque, à 22-23 ans, tu étais déjà maman, et nous, on voyait les années passer. Alors là, c'était, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les années galères où tu dis, tu vois dans la famille les naissances qui passent. Je vois le frère de Christine, par exemple, quand ils ont annoncé une troisième naissance, et que nous, toujours rien. Après, dans ma famille à moi, pareil, toi, t'es là, puis c'était galère, quoi, parce que tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? C'était pénible et tout. Et puis, alors après, tu demandes que ça. Et puis, t'arrives, toi, moi, je t'ai eu, j'avais 30 ans. Donc, quel côté, peut-être un côté plus mûr que certains de l'époque, parce que tu as attendu et tout ça, mais on ne demandait que ça. Et puis...
Parce qu'en fait, tous vos copains, ils avaient déjà des...
Ah ben oui, nous on était un couple sans enfants, et quand on sortait... Alors après, c'était différent, c'est que... Il y avait des soirées où il y avait avec des enfants et nous sans enfants, et ça nous faisait bizarre, surtout ta mère, quoi, quand même.
C'était dur pour elle.
Ah ouais, pour elle c'était très très dur.
Et
puis
pour
après
toi, moi, ou
non mais je me disais toujours, j'écoutais le gynécologue, je me disais ça va arriver, mais t'en sais rien. Surtout quand tu fais les examens comme Manu. Donc 40 ans en arrière, tu fais les mêmes examens où tu te dis attends, comment je vais récupérer les résultats. Et un jour, je me souviens trop bien, c'est que le gynécologue nous avait dit écoutez, pour moi, vous faites les résultats. Je vous envoie pas de courrier. Mais il dit, s'il y a quoi que ce soit, je vous envoie un petit... Et on part, et apparemment, on est parti un week-end à la mer. On en parlait il n'y a pas longtemps avec ta mère. On est parti un week-end à la mer, et on est revenu, et super cool. On était encore à l'appartement avant d'acheter la maison. Et là, on ouvre la boîte aux lettres, et courrier de la clinique du parc. Il m'a dit, s'il y a quoi que ce soit, j'envoie pas de courrier. Et là, le courrier est là. Et je suis resté un quart d'heure avant d'ouvrir cette putain de lettre. Et là, quand je l'ouvre, il était marqué, tout va bien, mais j'ai oublié de vous envoyer un renouvellement d'ordonnance. Et putain, je me suis dit, pendant un quart d'heure, on était là à se regarder, on dit, on n'aura jamais d'enfant. Donc, tous ces trucs, on disait... Bon, l'adoption, il faudra qu'on y aille. Puis il a fallu qu'on ouvre ce courrier. On dit, non, il n'y a pas de raison. S'il dit que pénible, quoi.
Je savais pas que vous aviez pensé à l'adoption, tu vois.
À un moment, bah oui, quand tu vois les années qui passent, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Adoption ? T'aurais eu un grand frère, une grande...
Grand frère adopté. Comment t'as vécu, toi, tes premières années de paternité ?
Alors, les premières années de paternité, pour moi, c'était, comme je t'ai dit tout à l'heure, une chance inouïe d'avoir ta mère qui a arrêté de travailler. Hein, parce que je suis tombé dans une entreprise qui a dépôt de bilan, reprise, trou, où j'avais, je me suis retrouvé d'être comptable à comptable et de comptable à chef comptable dans une entreprise où on s'est retrouvé à un moment donné à 800 salariés, où je balisais quand même, où j'étais pas tranquille, parce que j'étais jeune encore, j'avais une trentaine d'années. Puis bon, ça tombait bien que j'ai dû passer des soirées, j'ai fait des horaires impossibles. Mais bon, ta mère était là. Elle s'est toujours occupée de tout. Et puis alors moi, je me disais, mais tout ça, il faut que je compense d'une autre manière. Alors après, cette autre manière, ça a été surtout pour vous les garçons, parce que vous aviez des activités qui étaient différentes de votre sœur. Comme vous étiez au basket, ben, je passais mes week-ends en disant, je vais aller au basket, je les suis au match. Je les suis quand ils peuvent aller arbitrer, mais j'adorais, je kiffais. Je me souviens d'un week-end où j'avais fait 7 matchs de basket. Après, c'était avec votre sœur, c'était différent parce qu'elle faisait de la danse, donc c'est plus maman qui s'en occupait. Par contre, d'un autre côté, la semaine, bon, je m'arrangeais, j'avais des horaires au boulot où je pouvais faire un peu ce que je voulais. C'est que vous n'aimiez pas la cantine. Donc, il fallait que je m'arrange. Je venais vous chercher au lycée pour que vous reveniez ici pour manger avec nous, même si des fois, on mangeait une demi-heure parce que les horaires n'étaient pas... Mais ça, je voulais absolument que, quelque part, je fasse quelque chose qui pouvait vous faire plaisir. C'est-à-dire, je ne mange pas à la cantine parce que papa, il travaille. Mais oui, papa, il travaille. Mais bon, d'un autre côté, le midi, il peut se réserver quelques heures. Et puis, il y avait votre maman pendant tout le reste de la semaine... Fallait bien que je m'occupe aussi, moi, de mon côté, à faire quelque chose. Et j'en étais content. Et ça, ça m'est resté. Surtout vos matchs de basket. Et j'oublierai jamais, quoi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
C'est vrai que t'en as fait des conneries, putain, t'en as parcouru des kilomètres.
Ah ben, j'adorais. Et vous étiez content.
Ouais, c'est vrai.
Quand on prenait la voiture et qu'on allait faire le tour de Neuville pour klaxonner dans les rues pour l'équipe première, et ben, je savais que ça vous faisait plaisir. Et...
Petit aparté en voix off, ce que je n'explique pas ici en direct, c'est qu'avec mon père et mon frère, on avait monté un COP, alors avec plein de guillemets, hein, de supporters pour l'équipe première du club de basket de notre village, et on passait tous les samedis après-midi pendant les phases finales à faire le tour de la ville pour rameuter 1000 personnes dans la petite salle de basket du bled.
Et moi, ça me faisait plaisir de vous voir heureux, c'est tout. Et c'était ma manière à moi de dire, je ne suis pas tout le temps là la semaine, mais par contre, quand vous avez envie, je suis là. Après, vous grandissez. Mm. On vient passer au côté basket. Et après, je disais, le côté intéressant, c'est qu'on avait eu 3 enfants en 4 ans. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? C'est que sur peu de temps, vos 3 enfants, ils s'en vont. Et ça, c'est... Ça fait ouf. Tu dis, non, mais c'est pas croyable. Si vite, j'ai pas vu le temps passer. Et ça y est, ils s'en vont, et c'est leur match, c'est leur vie. Et puis après, le côté grand-parent. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que tu t'imagines pas...
Attends, tu vas trop vite. Quand tes enfants s'en vont, comment ça se passe pour toi ?
Ah ben, très dur, hein.
Pourquoi ?
J'ai arrêté de travailler assez vite, puisque la boîte a fermé. Mais au début, quand j'ai arrêté de travailler, ta maman avait repris le travail, parce qu'elle avait arrêté 17 ans pour vous élever. Et puis après, elle a retrouvé un travail en mairie, pas des plus cool possibles, mais bon, elle travaillait. Et puis moi, je me retrouve en arrêt de travail.
T'étais en pré-retraite, en fait.
En pré-retraite, tout à fait, ouais. Et puis ta mère qui continue à travailler. Et là, ça a duré un an, deux ans. Puis je dis, écoute, non, faut que t'arrêtes, quoi. Non, je vais pas rester ici à passer l'aspirateur que je sais pas bien faire, à faire plein de trucs que je suis pas doué pour ça. Donc, c'était pas pour ça que je demandais qu'elle arrêtait, c'était pour être avec moi. Mais bon, ça a aidé, quoi. Et du coup.
T'étais tout seul?
Ah ben, je me suis retrouvé tout seul et j'ai mis, je crois, plus de deux ans et demi avant de m'habituer à ne plus avoir mon travail qui me plaisait bien. Parce que j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien les contacts que j'avais avec les gens. Puis après, il s'est passé que j'ai repris un peu d'activité au bénévolat et tout ça, donc ça a été... Mais disons qu'il fallait que je ne pouvais pas rester à la maison seule. Et puis que ta mère, je lui dis, non, t'arrêtes de travailler, c'est bon, tu démissionnes. Et puis, c'était la retraite à deux, quoi. Puis c'était bien. Puis après, alors là, les enfants qui s'en vont, qui se marient. Et puis là, les petits-enfants. Alors là, c'est génial, là, quoi, parce que... Alors, j'ai eu, disons, on a dit 4 ans et 14 jours à avoir les trois enfants. Et on a mis 4 ans à avoir 5 petits-enfants.
T'as fait des calculs, putain.
Ah non, mais ça je le savais. Je n'ai pas compté les jours pour les petits-enfants. Mais disons que les 5 petits-enfants, on les a eus en 4 ans. Alors là, c'était génial. Et puis, tout ce qui nous est passé dans l'attente de nos enfants, c'était, je dirais pas presque aussi long, mais c'était aussi stressant d'attendre nos petits-enfants.
Ah ouais ?
Ah ouais, parce que tu dis, ça y est, il va y avoir... Et comment va la maman ? Et comment va le papa ? Et ah ouais, mais... Enfin, moi, j'étais toujours stressé, donc je me demandais toujours si tout se passait bien, et la naissance des petits, ça a été génial, quoi. Ça a été génial, génial, génial. Et Thibaut qui arrive en premier, Lina, 7 semaines après, après 2 ans après, t'as Nils qui arrive, deux mois, même pas, un petit 2 mois après, Kim, et puis après, petit Loris qui arrive en dernier, en peu de temps, en quelques années, on s'est retrouvé avec des petits... Et là, c'était génial. Comme disent beaucoup de gens de notre génération, des chicoufs. Ils disaient, oui, c'est ça.
C'est beaucoup, quoi des chicoufs ?
Chicoufs. Un chic, ils arrivent, ouf, ils s'en vont.
Ah.
C'était des gens de me demander. Moi, je dis, non. Je dis, chic, ils arrivent, en masse, ils s'en vont.
Ce que tu racontes pas, c'est que Fred, il a eu du mal aussi à avoir son premier enfant.
Ouais.
Bon, donc, mon petit frère.
Ouais.
Comment tu l'as vécu, toi ? Parce que ça a été long aussi pour lui. T'as eu la sensation de revivre un petit peu.
Vous en avez
parlé tous les deux, je sais même pas.
Non, pas trop. Enfin, si. Enfin, j'évitais quand même d'en parler. Parce que je voulais pas qu'il souffre ce que j'avais vécu. Et que je me disais, la médecine, elle a fait des progrès. Depuis, il n'y a pas de souci. Alors, t'as beau lui dire, nous, il nous a dit... 4 ans, il ne faut pas parler de ceci, 4 ans, il ne faut pas parler de cela. Donc, je me suis dit, ça va être mieux que nous, il n'y a pas de raison. Et puis après, quand il y a eu l'arrivée de Nils, je me suis dit, c'est bon, le premier est arrivé, le deuxième va arriver derrière, et puis ça n'a pas arrêté. Lui, je crois qu'il y a eu 19 mois d'écart.
Ouais.
Hein ?
Je pense que pas beaucoup.
Donc, il a fait comme son père, quoi. Sans frisson. Non, je n'ai rien dit.
Comment ça se passe ? C'est quoi la différence entre élever des enfants et élever des petits-enfants pour toi ? De 11 à 8, quoi, oui, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, c'est ça, oui, de 11 à 8.
Alors, ça passe très très vite. Hein, je trouve que vous, on vous a vu évoluer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tandis que là, comme maintenant, quand je vois les aînés, ils passent de 8 ans à 10 ans. On dirait qu'ils ont sauté d'une génération. C'est, j'exagère. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec votre jeunesse. Là, comme maintenant, avec leur, leur ordinateur, leur bazar et tout ça, ils évoluent à une vitesse. Puis là, maintenant, bon, les grands, ils sont rentrés, les grands. Les aînés.
Ouais, c'est, ils sont grands.
Ouais. Mais pour nous, ils ne sont pas grands. C'est ça le problème. Ils sont rentrés en collège. On commence à voir des comportements tout à fait différents. Et on se dit, c'est nous qui sommes un peu arriérés. Peut-être, je crois que peut-être qu'on n'évolue pas assez vite, mais je trouve que ça va trop vite quand même.
Trop vite, dans quel sens ?
Ben, ils grandissent trop vite. Pour moi, bon, c'est sûr.
Ben, on a fait pareil, nous aussi.
Mais moins vite quand même. Ça allait plus doucement. La relation avec les parents, bon, les grands-parents, je crois que vous n'aviez pas trop de contact ton époque avec les grands-parents. Mais là, il y a des moments où on se dit, déjà, on entend parler de petites copines, de petits copains. On dit non, c'est trop tôt. Et alors que, bon.
Hein? Comment tu gères les conflits, par exemple? C'est quoi la différence entre la gestion d'un conflit avec un petit enfant par rapport à la gestion d'un conflit quand on était môme? C'est différent pour toi?
Ah bah oui.
Il y en a des conflits, de toute façon.
Oui. Non, mais c'est aussi différent. C'est que maintenant, ben, on dit les conflits, c'est pour les parents. Comme si on a, par exemple, un petit enfant qui est plus souvent chez nous pour des problèmes de famille et tout ça, on est plus amené à devoir de temps en temps à dire non, stop, que je ne ferai pas avec, par exemple, avec tes filles, parce que Catherine est là, toi t'es là, donc on dit c'est les parents qui gèrent les conflits. Nous, de temps en temps, bon, il est possible, mais on est un peu rentré quand même, hein. C'est pas la même chose, hein.
Ouais.
Tu verras.
Pas tout de suite.
Non, t'as tout le temps.
C'est quoi la différence pour toi entre ta génération de pères, on va dire à mon âge, quoi, tu vois, quand vous étiez jeunes parents, et ma génération? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a des différences pour toi de comportement, de façon de faire, etc.? Comment tu l'analyses, toi, avec le recul?
De père?
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est assez compliqué. C'est que, je veux dire que, dans notre cas, nous, c'est que j'ai été père peut-être un peu plus tard que la normale de mes amis. Donc, j'ai peut-être un peu plus de recul et plus de sagesse que des amis que je voyais de temps en temps râler, tout ça. Je me disais, bon, attends, quand t'as mis du temps à avoir des enfants, t'as pas envie forcément de râler dessus, de te dire, bon, on va calmer les choses. Puis on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a eu 3 enfants adorables.
Enfin, tu dis ça.
Non. Ça, je le dis. J'ai une amie qui m'a dit il y a pas longtemps, en parlant de nos petits-enfants, donc il doit avoir quelque chose, c'est que vous avez des petits-enfants anormalement sages. J'ai entendu ça, j'ai dit, bah, peut-être que c'était pareil avec nos enfants. Non, on n'a pas eu de soucis avec les 3. Donc, j'avais des amis qui avaient des enfants turbulents. Donc, moi, on n'a pas été affronté à ça. De temps en temps, je crois que votre mère, qui était plus souvent avec vous que moi, elle a dû...
Ton micro tout le temps.
Ah, c'est un micro? Je pensais que j'avais... Non. Je me demandais ce que j'avais là. Non, c'est pas grave. Non, mais j'ai 70 ans, faut que je m'excuse. Pas habitué d'avoir un micro. Non, mais je veux dire que votre maman, qui était plus souvent avec vous, elle a dû râler plus souvent que moi, j'ai pu le faire.
Ouais.
Moi, je rentrais du boulot et des fois, je disais « Ah, ils ont fait ça. » Je me disais « Mais attends, je suis pas là, le père fouettard, que eux, ils vont pas comprendre. » C'est comme un enfant, tu dis « T'as fait ça il y a une heure, j'arrivais trop tard, c'est tout. » Donc, fallait pas que je rouspète. Je crois que j'étais trop cool aussi. Ben, peut-être que c'est peut-être ce qu'elle m'a pu me reprocher, c'est possible, hein, mais
T'as été très cool, en fait. Moi, je t'ai rarement entendu râler sur nous, alors que, effectivement, maman, elle nous courait après et tout pour.
Ah, bah oui, mais. Non, mais ça, c'est les mamans, hein, les mamans. Moi, j'ai. Bah non, mais comme je te dis, si j'arrivais après le coup, j'allais pas commencer à courir après vous. Non, ta mère, c'est elle qui a subi les petits soucis quand il y en avait. Moi. Non, mais c'est pas que j'étais cool, mais.
Mais comment tu l'analyses, la différence ? Si tu prends mon comportement à moi par rapport à ton comportement à toi, par exemple, parce qu'en fait, au final, on a quasiment eu nos enfants au même âge. Hein. Moi, j'avais 28 et toi, t'avais 30. C'est quoi les grosses différences pour toi ? Après, je ne suis pas en train de dire que c'est pour toute la génération. Hein.
Non, mais compliqué. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez eu un boulot qui prenait beaucoup de temps.
Ouais.
Hein, que ce soit toi et Catherine, vous avez énormément de boulot.
Et toi aussi, tu bossais beaucoup.
Ouais, mais tout seul.
Ah oui, d'accord.
Hein, ouais. Ta mère était là pour gérer beaucoup de choses dans la semaine. Mm-hmm. Donc moi, je m'essayais de me rattraper le week-end en disant, je vais aller au basket, je vais aller ceci, je vais aller cela, je vais les conduire là-bas, je vais aller là-bas. Et à la cantine, je vais les conduire pour qu'ils n'arrivent pas à manger à la cantine. Mais le reste du temps... Quand je rentrais le soir, des fois, vous étiez presque l'heure d'aller au lit.
C'était tard, ouais.
Et ta mère était là. Le matin, quand je partais, c'est ta mère qui allait vous conduire à l'école. Bon, c'était pas loin, mais...
C'est pas très loin.
Elle était toujours là, quoi, je veux dire. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir, à un moment donné, où j'avais des problèmes de boulot, de dire, je suis débarrassé d'un souci...
des contraintes logistiques.
Exactement. Moi, je me suis retrouvé... quand tu reprends une société et tu dis « on a besoin de toi à toute heure », j'ai dit « bon... » Et si demain, c'était maman qui travaillait, j'aurais dit « ben non, je m'en vais, je dois aller récupérer mes enfants à la crèche ou à ceci, cela. » Ça ne m'est pas arrivé, donc j'ai eu une chance extraordinaire de ce côté-là.
C'était quoi ta place, toi, de papa par rapport à... Par rapport à Virginie, parce que tu parles beaucoup de nous deux avec.
Non, c'était dans l'ordre d'arrivée, quoi.
Ouais.
Puis après, alors là, le désir de la fille, là c'était.
C'était un truc de maman, c'est ça ?
Ah ben, c'est-à-dire que sur le coup, j'avais dit, ça va, 19 mois, ça va, il n'y a pas d'urgence. Mais je comprenais que quand même, passer 30 ans pour le premier, il ne fallait pas trop attendre non plus. Comme elle avait fait pour Frédéric, fallait pas trop attendre. Donc, et là, quand elle a dit, j'aimerais bien une fille quand même, tout de suite, je dis, mais tu sais pas, ça sera peut-être un garçon. Et puis là, elle a commencé à aller voir des trucs, parce qu'on n'avait pas Internet à l'époque. Hein. Et puis, alors là, elle a
des régimes sans sel.
Les régimes sans sel.
C'est ça.
Enfin, pas pour moi, hein. C'était pour elle, le régime sans sel, parce que moi, j'aurais été malheureux. Donc, elle faisait des régimes sans sel et tout ça. Puis, à un moment donné, on est allé voir notre docteur, où elle expliquait qu'elle faisait un régime sans sel, et elle avait maigri énormément. Et là, il lui a dit, mais attendez, le régime sans sel, c'est peut-être bien. Oui, c'est vrai que vous mettez plus de chances de votre côté. Mais dit quand même, faites attention, parce que ça peut faire des distorsions, tout ça, donc...
Puis c'est de conneries, au final, non, ces histoires
J'en sais rien, je ne saurais jamais.
En tout cas, ça a marché pour elle.
Et puis pour elle, ça a marché, puisqu'on a eu la petite fille. Avec...
Alors c'est juste une chance sur deux. Ton rapport aux enfants, en fait, avec le temps, ça a évolué comment ? Par rapport à quand tu étais papa ?
Ah ben, beaucoup plus cool.
Ouais.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je crois pas que j'étais un papa sévère.
Ben non, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc je suis encore moins sévère. je suis plus cool pour pas mal de choses, ouais, ça c'est clair. Je suis hyper cool. Et là aussi, je profite de mamie qui est là. Quand il y a quelque chose à dire, c'est elle qui va le dire. Donc c'est pas la peine de le dire à deux, parce que les enfants vont dire, si on se fait engueuler des deux côtés. Non, mais...
Tu pourrais le dire d'une façon différente.
Ouais, non, mais des fois j'explique gentiment. Je dis, non, faut pas dire ça. Je sais pas pourquoi, alors que je peux très facilement me mettre en colère pour d'autres choses sur des adultes, mais pas sur des... Non, pas sur les petits. Ils sont trop mignons.
Je t'ai pas beaucoup vu pleurer, moi, quand j'étais gamin.
Ah bon ? Ah bah non, parce
alors que je te vois beaucoup plus pleurer depuis que t'es papy.
C'est parce qu'on vieillit.
C'est pourquoi ?
Quand tu deviens vieux, J'écoutais l'autre jour, il y avait d'Ormesson qui est décédé, ouais. Là, Jean d'Ormesson. Ta mère, quelques jours avant, elle regardait la télé, puis elle voyait des gars, elle disait oh, « Dis donc, tu fais plus jeune, hein ?»« Ah, tu fais plus jeune qu'eux, hein ?» Je dis « Ouais, ouais, 70 ans, ça fait plaisir quand t'entends ça. » Et je dis « C'est quand même marrant, c'est que tu me dis ça, jamais personne ne m'a dit quand j'étais jeune que je faisais jeune. Mm. » Je dis « C'est maintenant qu'on devient vieux qu'on dit « Tu fais plus jeune qu'eux. » Et quelques jours après, Jean d'Ormesson décède et il passe un truc à la télé où il dit exactement la même chose. Mm. J'avais jamais entendu avant. Elle dit, bah oui, il dit quand on vous dit que vous faites jeune, c'est que vous êtes vieux. Parce qu'il dit avant, vous ne l'avez jamais dit. Si on vous le dit maintenant, c'est que vous êtes vieux. Et là, j'ai pris la... Non, je ne vais pas dire que j'ai pris conscience parce que je savais que je deviens vieux. Mais... Et là, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est plus dur de se dire qu'on vieillit.
Pourquoi tu pleures plus facilement qu'avant, alors ?
Bah, je crois que c'est la sensibilité, quelque part, qui fait que tu te dis... je ne sais pas, j'ai peut-être plus autant d'années à profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, et que tu es plus sensible, à mon avis. Alors, je crois que oui, ça c'est
avant,
clair.
Avant, tu le ressentais quand même, avant, mais non ?
Ouais, mais je crois que j'ai été très sensible à un moment donné, quand je voyais des gens partir, comme je te dis, j'ai perdu mon père très jeune. Après, t'as des amis, ils s'en vont, et je vais pas dire que tu t'endurcis en vieillissant, mais après, ça fait peut-être l'effet inverse que tu dis, bah maintenant, 70, oui, bah ouais. Quand j'ai passé la dizaine, j'ai fait la gueule, hein. Ah ben quand même, vous verrez, passer 60, ça va, 70, ça va moins bien. Quoi.
Moi je me souviens que tu avais fait la gueule quand tu avais eu 40 ans.
À 40, oui, tout à fait. Parce que 40, j'avais dit, oh là, c'est quel âge, Jean. Et après, à 50, je me suis dit, ben 50, tu commences à penser retraite. Alors que c'est pas votre cas maintenant, quoi. Et puis après 60, tu dis, bon, bah, maintenant la retraite, elle arrive, quoi. Et puis la retraite, elle est là. Et puis les années passent très, très, très vite. Et c'est pour ça, je dis à tous les jeunes, profitez de vos années.
Tu sais que j'ai toujours entendu dire que tu allais mourir à 51 ans ?
Oui.
Tu sais pourquoi ? Tu te souviens de cette anecdote ?
Ben,
quoi ?
Non, 49, j'allais mourir.
49, oui.
49. Oui. Non, mais j'ai un grand-père qui est décédé à 53. Mon père est décédé à 51. Et donc, comme j'étais un vieux comptable, je dis 53, 51, le 49, ce sera mon tour. Eh ben non. Et puis après, arrivé, j'ai dit, bon, ça y est, peut-être que le truc, il est cassé. C'est toi qui m'avais dit ça, hein, le moule est cassé.
Bah, oui, c'est ça.
Ouais.
C'est
et puis, ben oui, la preuve, gars, je suis arrivé à 70. Alors que j'avais les mêmes problèmes de santé de mon père, que moins grave que lui. Il est asthmatique.
T'as déclenché de l'asthme super tard.
À 35 ans.
Ouais.
À 35 ans...
C'est pas normal, normalement, on déclenche pas de l'asthme à 35 ans, non ?
Dit ça à mon docteur, à l'époque. il m'a dit, vous êtes asthmatique, et quand j'ai tout raconté, il m'a dit, bah oui, bah, vous avez hérité votre père, c'était héréditaire. Et
parce
puis,
que ton père, il était asthmatique depuis plus jeune que ça.
Ah ben, il travaillait dans une entreprise textile où il respirait des saloperies. Mm-hmm. Donc, je peux dire que... Moi, je le voyais arriver... des fois, sa voiture arrivait au fond du garage, là, on voyait ses phares arriver. Et puis, pendant 5-10 minutes, il ne bougeait pas de sa voiture. J'étais gamin, j'allais le chercher. Et puis, il était en train de faire des crises d'asthme dans sa bagnole. Donc, à 45 ans, il s'est retrouvé en invalidité. Et puis, il est mort à 51.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants qui vont écouter ce podcast ? Parce que tu sais, j'ai toujours cette question-là.
À mes enfants ?
Bah oui.
Ah ben,
parce que normalement, c'est dans 10 ans, tu sais, mais là, on est grand, c'est nul.
Mes enfants ou mes petits-enfants ?
Tes enfants.
Ah, mes enfants. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas dire, comment on dit, un vieux con. Comme dirait Jean d'Ormesson, qui l'a dit il n'y a pas longtemps, parce que j'étais un jeune con, maintenant je sais ce que c'est, parce que je suis devenu un vieux con. non, mais j'espère qu'ils diront qu'ils sont fiers de leur papa et de leur maman, surtout. Hein ? Et les petits-enfants, pareil, quoi. Je veux dire, s'ils ont un souvenir de leur papy-mamie, un souvenir, un très bon souvenir.
Tu sais que moi, tu m'as aidé à un truc fou, hein, c'est qu'avec ton histoire de... Je me suis rendu compte de ça avec ton histoire de « je vais mourir à 49 ans ».
Ouais.
En fait, tu m'as aidé depuis tout gamin, je pense, à me préparer à ta mort.
Oui.
Tu te rends compte ou pas? Parce qu'en fait...
Me l'as dit une fois,
moi,
oui.
Depuis
oui.
que je suis tout petit, je me dis « ok, en fait, mon père, en fait, il est mortel ». Et ouais. je pense que quand je discute avec d'autres gens, tu vois, qui sont autour de moi, ils ont beaucoup de mal justement avec cette idée que leurs parents vont mourir un jour. Et en fait, je sais, bah, sans doute par rapport à ta propre histoire à toi, si tu veux... je sais pas à quel point c'était, tu t'y attendais, toi, à ce que ton père meure aussi vite ou parte aussi vite. C'était sans doute c'était dur pour toi, j'imagine, à 30 ans, quoi. C'était très tôt.
Ah non, mais je m'attendais pas. J'avais pas fait la relation à l'époque avec son grand-père, son père à lui, que j'ai jamais connu.
Et ton père, il est mort de façon, assez accidentelle, en fait. Tu t'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite ou
ah
il
non,
était malade.
Non, non, à 45 ans, il a arrêté de travailler. Moi, quand j'étais voir le docteur, j'ai dit, vous savez, il veut venir absolument avec aller à Perpignan.
Ouais.
Je dis, moi, j'ai les doutes. Il dit, non, vous inquiétez pas, il est bien, ça va aller. Bon, et puis, on a pris la décision de partir. On a dit, on va faire la route en 2 jours. On va. Et alors, c'était assez marrant parce que j'avais payé l'hôtel, j'avais payé les trucs sur la route, tout ça. Et la veille de mourir, il m'a dit « je te dois de l'argent, toi ». Je lui ai dit « écoute, ça va, on travaillait à deux à l'époque ». Oui, parce qu'à l'époque, on travaillait encore à deux. Ouais. Et je lui ai dit « t'inquiète pas ». Non, 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 non. Et il m'a obligé d'aller à la caisse d'épargne, à Perpignan, à côté, à Canet-Plage, la petite succursale. Il a été rechercher de l'argent liquide pour me payer ce qu'il devait. Je lui ai dit « est-ce qu'il n'y avait pas une prémonition quelque part ?» Après, je me suis posé la question, tu sais, quand il est arrivé ça la nuit, ou à minuit, ma mère, elle vient me chercher, elle dit, viens voir, papa, il est pas bien, et puis, tu vas chercher les pompiers qui sont au coin de la rue, ils arrivent, ils n'osent rien trop te dire, et tout ça. Puis après, ben, le lendemain, il faut refaire la route, puis revenir d'une traite, alors comme je te disais tout à l'heure, que j'étais pas trop bien non plus, et puis, je me suis dit après, mais déjà, est-ce qu'il sentait pas quelque chose? Tu te demandes, hein. Mais non, mais moi je crois que, ben non, il faut que, ben, de toute façon, il faut être prêt un beau jour à se dire.
Ouais, mais c'est pas mais, facile.
Non, non, mais quand je vois mon père comment il est parti, trop jeune, c'est vrai, beaucoup trop jeune, et je vois aujourd'hui des personnes qui traînent, âgées comme ça, des fois. À souffrir et tout, je me suis dit, moi aussi, un jour, au revoir, et puis... non, mais, je veux dire, je veux pas emmerder tout le monde et puis vieillir trop mal, quoi, c'est ça, que... Non, alors, si quelque part, vous êtes prêts, ben c'est bien, vous serez pas surpris, non, mais...
Ça n'empêchera pas que ce soit dur, mais en tout cas, je pense que c'est,
ah ouais, ouais,
c'est
non,
pas mais... un truc inconcevable. J'ai des gens autour de moi pour qui c'est...
Ah oui, oui, non, mais et quand ça leur arrive, alors...
Bah, c'est dur. C'est,
bah non, parce que...
Le ciel leur tombe sur la tête.
Ah oui, oui, non, mais c'est parce que... Moi, ça m'est peut-être arrivé trop jeune. Mais il y en a à qui c'est arrivé bien plus jeune que moi. Hein, quand... je sais pas, la personne que tu as interviewée avant moi, il a perdu son père très jeune.
Beaucoup, hein. Plus tôt, ouais.
Lui, c'est encore autre chose.
Ouais.
Je veux dire que... Quelque part, tu dis, bon, ouais, bon, ça va, je vais pas me plaindre. J'avais. Non, mais la chance, il est peut-être décédé très jeune, mais ses 3 garçons étaient mariés déjà. Donc, je veux dire.
Il avait fait le boulot, tu veux dire.
Ouais, non, mais mon père, ses 3 enfants étaient mariés. Malheureusement, bon, il a connu quelques petits-enfants, mais pas vous. Ça, ouais. Ça, c'est mon grand regret, ça. Ça, c'est clair que. Je ne vous ai pas connu. C'est sûr.
Non, on le connaît, hein, tu sais. Tu nous as filé des photos, tu nous as montré des trucs, tu nous as raconté plein d'histoires. C'est comme ça, en fait, que son souvenir perdure, quoi, tu vois.
C'est clair.
Hey, merci beaucoup, papa.
Bah, de rien.
C'était trop bien.
Mais...
T'avais bien préparé tes notes.
Je suis content.
T'es trop fort. Un grand, grand merci.
Merci.
Oh putain, il finit en pleurant et tout. Allez, viens, fais un câlin.
Et voilà, c'est terminé. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés, mais aussi un petit commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Et puis, si le concept vous plaît, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. N'oubliez pas, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail histoire avec un S de daron avec un S @gmail.com. Je vous ferai en sorte de vous répondre. Enfin, après ce petit décalage dans nos habitudes à cause des vacances de Noël, on reprend dès la semaine prochaine le rythme normal, ce qui fait que vous aurez un épisode le lundi 16 janvier, ce qui fait en fait le troisième lundi du mois de janvier. Et je vous dis à la prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.